J'aimerais continuer un peu ce que j'avais partagé, si vous vous souvenez, concernant la vérité. De savoir être dans la vérité. Alors, je ne vais pas vous faire un message sur la vérité, mais je crois que c'est important et c'est complémentaire. Et je pense que c'est toujours bon de se rappeler des choses essentielles. Et donc, on va essayer de voir ensemble ce que peut-être vous pensez et comment vous vivez les choses. En tout cas, si je vous demandais ce matin, dans quel camp es-tu ? Quelle serait ta réponse ? N'hésitez pas. Hein. Le camp de Dieu. Je pense que la majorité d'entre vous dirait, moi je suis dans le camp de Dieu. Alors effectivement, j'aurais peut-être dû dire avant, dans quel camp êtes-vous ? Dans celui de Dieu ou dans celui de l'ennemi ? Mais je ne l'ai pas dit, mais... Voilà, je crois que la majorité des gens dirait qu'ils se trouvent dans le camp de Dieu. Mais ce matin, ce que je vais peut-être expliciter un peu plus, c'est plutôt dans quel camp crois-tu être ? Et dans quel camp es-tu réellement ? Parce que je me rends compte quand même, malheureusement, que parfois des gens s'illusionnent sur qui ils sont, sur là où ils sont. Et que c'est parfois important de rappeler certaines choses. Alors, loin de moi, je ne veux pas qu'il y ait une chape de plomb qui vous tombe dessus. Ce n'est pas du tout le but, et vous verrez plus tard, je vous l'expliquerai. Mais sachez que, alors, je l'ai encore dit plusieurs fois cette semaine à différentes personnes, ne nous leurrons pas. Satan est puissant. Et en tant que chrétien, parfois, nous le minimisons. Et parfois, nous disons, bon, c'est pas si grave que ça. Et en fait, ça, c'est ce que l'ennemi veut dire dans nos vies. Oh, t'inquiète pas, c'est pas si grave ça. C'est pas si grave ça. C'est pas si grave ça. Et par contre, quand on est dans la vérité de Dieu, on se rend compte que Dieu dit. En fait, quand l'ennemi fait ça, il nous tient captifs. Parce qu'on croit que c'est pas si grave, mais ça nous donne pas la liberté que Dieu veut nous donner. Et c'est pour ça, ce n'est pas du tout une condamnation, mais c'est de savoir effectivement dans le camp de l'ennemi ce qui se passe et dans le camp de Dieu ce qui se passe et ce que Dieu dit. Et c'est vrai que parfois on est, même en tant que chrétien, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire, le diable ne va pas aller embêter les gens de l'extérieur puisqu'ils sont, pour la majorité, ils vont en enfer. Mais Satan s'attaque aux chrétiens. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend quand même compte à plusieurs reprises que l'apôtre Paul met en garde l'Église. Il parle à l'Église et il met en garde l'Église. On pourrait se dire, bah, parfois, moi, en tout cas, au début de ma conversion, quand je lisais certains textes, je disais, bon, c'est pas pour moi. Mais en fait, si. Quand on est chrétien, c'est pour nous. C'est pas pour les gens du dehors. Donc, ça nous concerne souvent. Quand on lit la parole de Dieu, il y a des choses, des mises en garde que Dieu fait, parce que ça nous concerne et parce que Dieu veut vraiment nous amener à entrer de plus en plus dans la liberté qu'il a pour nous. Alors, je vais vous lire Marc, au chapitre 7, du verset 1 au verset 23. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Alors, peut-être que vous le faites aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous vous lavez les mains, comme peut-être pas. Mais à l'époque, il y avait vraiment des choses qui étaient instituées au niveau, chez les Juifs. Donc, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et je pense que, je ne vais pas citer d'autres religions, mais je pense que même chez nous, parfois il y a des tradition d'homme que nous mettons en place et que Dieu n'a pas demandé. Et donc, c'est important parfois de rééquilibrer les choses. Et puis, les limites de Dieu ne sont parfois pas nos limites et de veiller à ça. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Alors pourquoi j'ai pris ce texte ? En fait, c'est parce que dans ce texte, Jésus fait bien la distinction entre ce qui souille l'homme et qui ne le souille pas par rapport à ce qu'il mange. Et donc, quand Jésus dit « ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille », et là, on pourrait dire « mais donc, quand je regarde la télé, quand je regarde des choses sur Internet, alors, soyons très clairs, hein, nous avons de très bonnes choses que nous pouvons voir à la télé, il y a de très bonnes choses que nous pouvons voir sur Internet, mais il n'y a pas que des très bonnes choses. Et je crois que, malheureusement, nous avons plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et que là, en lisant ce passage, on pourrait dire, bah donc, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui va me souiller. Et malheureusement, je pense que si. En fait, si vous prenez un enfant, la vie d'un enfant, quand il vient au monde, il est un peu comme ça. Ce n'est pas une éponge, mais il est un peu comme ça, dans cet état de « il n'est pas rempli ». Et puis, quand il est confronté aux choses de cette vie, il commence à en être imprégné. Des bonnes choses comme des mauvaises. Et on ne peut pas dire « ce n'est pas grave ». Dieu nous enseigne vraiment à éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Nous avons en tant que parents une grande responsabilité par rapport à ça parce que c'est vraiment, vraiment important. Dieu, son désir, c'est que nous puissions former nos enfants selon sa parole. Et là, ce que j'ai fait, j'ai pris le coin de l'éponge et vous savez comme moi qu'au fur des années, alors je parle d'enfants, mais je peux parler d'adultes. Une fois que cette éponge est remplie, je peux la retremper dans un autre liquide. Le liquide n'aura plus beaucoup de possibilités de prendre de la place. Parce que tout ce que nous avons reçu en tant qu'être humain, en tant qu'enfant, parce que en tant qu'adulte, ben effectivement, on arrive peut-être à faire la part des choses. En tant qu'enfant, il y a des choses que les enfants reçoivent. Si c'est en bien, tant mieux, mais si c'est en mal, malheureusement, ça va impacter leur vie. Je ne sais pas pour les jeunes parents, quand vous conduisez vos enfants à l'école et que vous regardez ce qui se passe sur la cour de récréation, est-ce que vous sentez la paix ou pas ? Alors, toutes les écoles ne sont pas les mêmes, ça aussi, c'est une réalité. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que le monde dans lequel nous vivons impacte nos enfants, mais très, très fortement? Nous voyons donc beaucoup de violences verbales ou physiques. En tant qu'adultes, parfois, nous en sommes imprégnés. Mais que dire des enfants? Parce que là, j'ai pris l'éponge, mais en fait, j'aurais pu vous prendre un récipient vide et vous dire et mettre petit à petit de l'eau ou autre chose et de le remplir. Et nous sommes comme des vases. Et nous recevons autant les bonnes choses que les mauvaises. Le problème, c'est que quand notre vie est remplie de mauvaises choses, les bonnes choses ont moins d'impact dans nos vies. Et donc, nous avons à veiller à cela. Et nous ne pouvons pas dire, et c'est pour ça tout à l'heure je disais, ne nous leurrons pas, l'ennemi est puissant. Mais ça, ça ne m'inquiète pas dans le sens où je sais que Jésus est tout puissant. L'ennemi devant Jésus ne peut rien faire. Parce que Jésus est tout puissant. Mais nous ne pouvons pas dire, ben, Jésus est tout puissant, donc je peux quand même faire ce que je veux dans ma vie. Si vous pensez ça, vous vous trompez. Si je pense ça, je me trompe. Parce qu'effectivement, quand je fais ça, ça veut dire je permets à l'ennemi de faire des choses dans ma vie. Certainement que Dieu ne veut pas. Et que parfois, pour lesquelles nous sommes aveuglés. Et nous acceptons parfois des choses dans nos vies et on finit par croire que c'est pas mal ou même parfois que c'est de Dieu. Alors que ça ne l'est pas du tout. Le nombre d'enfants aujourd'hui qui se retrouvent devant la télévision le matin avant d'aller à l'école, et malheureusement, les parents ne savent pas ce que les enfants regardent. Alors, il y a des parents qui vont dire, « Si, si, moi, ils regardent des dessins animés. » Mon épouse, il n'y a pas très longtemps, m'a dit qu'elle avait vu quelque chose d'horrible au niveau, justement, des dessins animés. Donc, c'est un dessin animé qui paraît tout à fait banal. Et en plein milieu du dessin animé, il y a un adulte qui se présente et qui dit aux enfants qui regardent ce dessin animé, « Si jamais vous voulez vous suicider, coupez-vous les veines comme ça, ne faites pas comme ça. » Et puis, ça s'en va. Et donc, en tant que parent, si on n'est pas là à ce moment-là, qu'est-ce qui impacte le cœur et l'âme de l'enfant? Alors, on pourrait dire, « Oui, mais ça, ça n'arrive quand même pas souvent. » Mais ça ne doit pas arriver souvent. Vous savez, l'ennemi vient, il sème des choses, et à partir du moment où il y a semé, vous semez une graine, ça va porter. Si vous ne l'arrachez pas, ça va porter. Si vous ne la détruisez pas, ça va porter. Et sans dire ce que tu vas apporter la semaine prochaine, j'avais une fois apporté une prédication où j'expliquais aux gens, vous avez deux terrains, un terrain que vous cultivez et un terrain que vous ne cultivez pas. Le terrain que vous cultivez, il va y avoir de bonnes choses, mais malgré tout, vous aurez de la mauvaise herbe qui va pousser. Alors ne parlons pas du terrain que vous ne cultivez pas. Vous pouvez imaginer, regarder autour de vous la nature, si vous avez un potager chez vous, vous n'êtes pas là pendant 15 jours, quand vous revenez, vous dites, oh, quel boulot! Alors oui, il y a peut-être les tomates qui ont poussé, il y a de la salade qui a poussé, mais il n'y a pas que ça. Les mauvaises herbes, elles vont souvent bien plus rapidement envahir votre jardin. Donc, ce qui est vraiment super important, c'est de donner une éducation à nos enfants, mais aussi à nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas que les enfants. Toute notre vie, nous allons entendre des choses qui vont être bonnes ou mauvaises. Et qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Est-ce que nous allons prendre position sur les choses qui ne sont pas bonnes ou pas? Ou est-ce qu'on va juste, je l'accepte? Mais tout ce que nous acceptons, on n'en est pas à la nourriture, là. C'est pas ce que je mange, je vais aux toilettes et puis c'est bon. Non, là, ça vient dans mon cœur. Et ce qui vient dans mon cœur, à un moment donné ou à un autre, va ressortir. Et donc, il y a des gens, parfois, qui se trouvent dans des situations où ils ne voudraient même parfois pas. Hein. Alors, quand je dis des gens, c'est des chrétiens, et après coup, ils disent « Ah, flûte !» Et en fait, quand on regarde un peu en arrière, on peut se dire « Mais il faudrait peut-être arrêter de regarder telle émission ou telle émission, parce que du coup, tu n'en serais plus imprégné. » Aujourd'hui, on finit par trouver normal de râler parce que tout le monde râle. Alors que la mentalité du royaume de Dieu, ce n'est pas ça du tout. Mais donc, attention vraiment et veillons à ne pas nous laisser impacter par ce monde, même que on sait bien qu'on est impacté. En tout cas, si vous ne le pensez pas ou si vous n'y avez jamais réfléchi, nous sommes impactés par le monde. Je suis impacté, tu es impacté. Dans Proverbe 4, je vais vous lire du verset 20 au verset 27, pour ceux qui veulent le relire. Mon fils, sois attentif à mes paroles, ou ma fille, sois attentive à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que nous sommes tellement imprégnés par « mais c'est pas grave ». Mais ça, c'est pas si grave. Et nous nous laissons parfois endormir. Parce que c'est ce que l'ennemi veut faire. Hein. Il veut nous endormir. Alors, je parle de lui, comme je l'ai dit, pour moi, c'est très clair dans ma tête, il est puissant, mais c'est aussi très clair dans ma tête, Jésus est tout puissant. Et j'ai déjà oublié ce que je voulais vous dire. Si ça me revient, je vous le dirai. Désolé. Dans 2 Timothée 2,19, il est écrit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Nous avons de nombreuses recommandations dans la parole de Dieu par rapport à ça. Et c'est pour ça que je disais au début du message, mais attention, dans quel camp es-tu réellement? Dans les situations, est-ce que parfois si tu crois que ça c'est bien, mais tu n'en es pas trop sûr, est-ce que tu demandes l'avis d'un frère ou d'une sœur? Pour lui dire, mais voilà, je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Ou alors, parce que ça nous arrange, parce qu'on ne doit pas changer dans la situation, ben du coup, on le fait comme ça. Et ça ne nous pose pas trop de problèmes. En tout cas, c'est ce que l'on croit. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et là, l'intelligence, ce n'est pas de l'intelligence humaine. C'est l'intelligence de notre esprit, l'intelligence qui est renouvelée par Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors ma question, c'est quelle est l'atmosphère qu'il y a à la maison? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé sur la cour de récréation. Est-ce que vous voyez de la violence? Parce que la violence, elle est autant verbale que physique aujourd'hui. Hein. Il y a de la violence verbale qui est très forte. Mais quelle atmosphère y a-t-il à la maison? Est-ce que c'est une atmosphère de paix, une atmosphère de tension? Une atmosphère sereine ou violente? Et là, essayons d'être vrais. Parce que là aussi, on peut se dire « Ah, moi, il y a la paix à la maison. » Et puis, quelqu'un est déjà venu chez toi. Et est-ce qu'il t'a dit « On sent la paix chez toi ?» Alors peut-être que si on ne te l'a pas dit, il y a peut-être la paix. Mais c'est quand même toujours bien d'avoir des gens, quand ils viennent chez vous, qui disent « On sent la paix, on sent l'amour, on sent le royaume de Dieu. » C'est vraiment important. Et ce n'est pas quelque chose que je déclare qu'il y a dans ma maison. C'est ce que les gens, quand ils viennent chez moi, et on en a pour preuve, hein, les gens, quand ils viennent à l'église, les retours qu'on a, ils sentent la paix dans l'église, ils sentent l'amour dans l'église. Et pourtant, moi, j'ai déjà entendu des gens qui se plaignaient. Oh, il n'y a pas d'amour ici. Et souvent, je pense malheureusement que ces gens-là, au fond de leur cœur, il y a quelque chose à devoir être libéré. Parce que si vous avez 95% de personnes qui disent « Ah, qu'est-ce que je suis bien quand je viens dans ce lieu, parce que je sens l'amour et la paix », et que 5 personnes disent « Oh, il n'y a pas d'amour dans cette église », alors ça ne veut pas dire qu'on doit dire « Non, non, mais c'est bon, c'est OK ». On a certainement à s'améliorer encore dans des domaines. Mais de manière générale, voilà. Luc 10, 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et quand je lis ce verset, ça me fait parfois un peu peur. Parce que si on n'est pas au clair avec la parole de Dieu et avec Dieu, je ne crois pas que ce verset est d'application. Et donc, on se leurre. Et donc, on se fait du mal. Et pourtant, on va utiliser la parole de Dieu et puis on va dire « Mais j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. » Mais ça, tu l'as et Dieu te le donne à partir du moment où, effectivement, tu es aligné avec Dieu. Quand ta vie est alignée avec ce que Dieu veut et ce que Dieu dit, alors oui, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Autrement, je dirais non, ne le fais pas. Il y a vraiment un réel danger. Alors, imaginez qu'il fasse chaud. Et que je te donne la bouteille. Jacqueline, est-ce que tu veux boire ? Il fait chaud. Tu veux boire ? Non, mais si tu avais chaud. Oui, si elle a chaud, elle va le boire. Michel, si tu as chaud, tu as soif, tu vas le boire. Maintenant, si je sors ça et que je dis « t'as chaud, t'as soif, est-ce que tu veux ça ?» Ça, c'est la bonne question déjà. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et pas juste dire « ah ben oui, j'ai soif, donne-le-moi ». Et heureusement, parce que vous imaginez, oui, j'ai soif, donne-le-moi. Et puis là, vous voyez du poison. Alors, il y a certains poisons qui agissent doucement, mais la majorité des poisons agissent rapidement. Alors, pourquoi j'ai pris 2 bouteilles différentes ? Parce que dans cette bouteille, il y a de l'eau. Si je m'en sors pas, je peux t'appeler, hein, t'as dit Pauline. J'ai demandé à Pauline de me préparer la bouteille, c'est elle qui l'a fait. J'arrache les 2. Non, ça va. Et ça, c'est la même bouteille. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qui est écrit. Non, pardon. Et dans notre vie chrétienne, le non-pardon, alors, dans notre vie chrétienne, dans la vie de tout être humain, le non-pardon, c'est du poison. Et ce n'est pas une autre bouteille. Je vous garantis. Alors, je suis désolé, hein, Pauline, j'ai arraché, mais il aurait peut-être fallu que je fasse de manière à ce que je puisse remettre et que vous voyez poison, non pardon. Et ça, c'est une réalité. Et malheureusement, parfois, même dans nos milieux chrétiens, on minimise le non pardon. Ben oui, mais tu comprends. Oui, mais tu ne connais pas ma vie. Oui, mais... Et je suis tout à fait d'accord. Mais je peux vous dire aussi, regardez un peu autour de vous et vous verrez, il y a des gens qui ont vécu des situations dramatiques et puis qui ont un cœur de pardon. C'est incroyable. Qui ont la joie de vivre, qui ne disent pas du mal des gens, alors qu'ils ont vécu des situations parfois. Durant leur vie, ça a été des cascades. Et puis des gens sont de bonne humeur. Et puis parce qu'ils ont travaillé le non-pardon, ils disent pardon, ils pardonnent les gens facilement, sans devoir se forcer. Pas « je vais le faire parce que Dieu me le demande seulement ». Je le fais parce que ça fait, c'est du bien pour ma vie. Ce n'est pas seulement pour les autres. Quand tu ne pardonnes pas, la première personne qui a empoisonné, ce n'est pas la personne que tu ne pardonnes pas. C'est toi-même. Et ça, c'est une réalité. Et donc, je crois qu'effectivement, la parole de Dieu est efficace. La Bible le dit. Mais elle est efficace quand nous sommes dans la vérité. Donc, si tu crois que toi, tu peux te permettre certaines choses, même si elles sont contraires à la parole de Dieu, moi, je peux te dire, il y a danger. Il y a réel danger pour ta vie. Et puis en Matthieu 6, 15, Jésus dit, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. » Et c'est vrai que dans le Notre Père, souvent, on connaît le Notre Père, on dit, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. » Et puis on le dit comme ça. Mais si nous prenions conscience que quand nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Du coup, ben, nous ne sommes pas alignés avec Dieu. Donc pour moi, la parole, Luc 19, qui dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire », sincèrement, je crois que ça n'aura pas d'effet dans votre vie, si ce n'est que l'effet inverse. Parce que vous croyez parfois être sous la protection de Dieu et vous ne l'êtes pas. Et l'ennemi se joue de ça. Mais vraiment dans des choses parfois qui nous paraissent être des détails. En tant que chrétien, et là on peut reprendre les 10 commandements, honorer ses parents, honore ton père et ta mère. Et dans le texte que j'ai lu, où Jésus le dit, celui qui n'honore pas son père et sa mère, il peut mourir. Et puis là, les Juifs disent, ben non, si tu donnes ton offrande et que tu n'aides pas tes parents, ce n'est pas grave. Et comment on annule parfois la parole de Dieu dans nos vies ? Et je crois que Dieu est triste, mais triste pour nous. Parce qu'en fait, c'est nous qui en subissons les conséquences. Mais c'est parfois plus facile de s'en prendre à Dieu et de dire, oh ben oui, mais ça, je ne suis pas d'accord ou ça, ce n'est pas normal. Alors que Dieu, ce qu'il veut, c'est notre bien. Dieu ne veut que notre bien. Ah oui, mais pourquoi il m'est arrivé ça dans ma vie ? Honnêtement, je n'en sais rien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent un peu par où je suis passé. Pourquoi je suis passé par là, je n'en sais rien. Pour certaines situations, il y a des situations pour lesquelles je sais très bien que c'était la conséquence des choix que j'avais faits dans ma vie, la conséquence de mon péché. Même quand on pense bien faire, parce que aider quelqu'un, c'est bien. Oui, mais si tu aides quelqu'un et que tu le sors d'une situation dans laquelle la personne était, mais qui ne te regarde pas, est-ce que tu ne vas pas à l'encontre de la volonté de Dieu ? Et est-ce que tu ne te mets pas sous un joug qui n'est pas bon ? Le vol. Oui, mais Dieu sait que je vole parce que... Oh, j'ai pris un bic à mon patron, mais il y en a des centaines. C'est du vol. Et on finit par minimiser les choses dans nos vies. Ça, c'est ne pas être dans la réalité. Et donc là, on pourrait dire, mais je suis chrétien, je viens tous les dimanches à l'église, donc pas de problème. C'est bien. C'est bien de venir à l'église tous les dimanches. Mais est-ce que ta vie est en règle ? Est-ce que ta vie est en conformité avec ce que Dieu dit ? Est-ce que tu crois qu'en disant « je suis chrétien, je viens à l'église », je suis dans le camp de Dieu ? Quand je vole, quand je mens. Et vous savez, c'est souvent par des petites choses. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le proverbe qui n'est pas biblique. Celui qui vole un œuf, vole un bœuf. Parce qu'on commence toujours petit. Et on finit par voler plus. Alors là, peut-être des gens me diront, moi, je ne fais pas plus qu'eux. Et donc, vous voyez, on peut dire, bah oui, mais comme... Celui qui vole un œuf vole un bœuf, et donc ça peut aller en s'empirant, mais moi pas. Moi, c'est que là. Ben oui, mais même que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas... Alors, c'est dommageable pour la personne qui le fait. Parce qu'en fait, c'est l'ennemi qui la tient dans la situation. Et la personne croit que ça va. Le mensonge, la convoitise. Ah, oh, mais c'est pas normal, mon voisin a ça, moi aussi je voudrais ça. Alors, honnêtement, moi ça m'est déjà arrivé de dire, ah, ben, Seigneur, j'aimerais bien ça. Mais ce n'est pas de la convoitise parce que mon voisin l'a, ou parce que mon frère, ou parce que. Ah ben Seigneur, ça j'aimerais bien. Et puis je suis dans l'attente de Dieu, si Dieu veut me le donner, je vais le recevoir. Mais si Dieu ne veut pas me le donner, Seigneur, j'ai une voiture, elle a 4 roues, elle roule, super. Si demain j'ai, je ne sais pas moi, une voiture d'un autre niveau, ben, Seigneur, merci. Maintenant, je sais que si j'achète une voiture d'un autre niveau, l'assurance risque de coûter plus cher. Quand je vais changer les pneus, ça va me coûter plus cher. Donc tout ça, c'est un calcul que je ferai. Mais je veux dire, si j'ai une demande, je dirais plus ou moins juste, je sais que Dieu va honorer. Et s'il n'honore pas, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça qui va déterminer ma vie et qui va déterminer si j'aime Dieu ou si je ne l'aime pas, ou si je l'aime un peu ou si je l'aime beaucoup. Parce que ma vie ne dépend pas de ça. Ma vie dépend de Dieu. Et je veux que Dieu prenne de plus en plus de place dans ma vie. Parce que ça, c'est la vie. Ça, c'est la vraie vie. Il n'y a personne qui pourra m'enlever ça. Il n'y a personne qui peut vous enlever votre relation avec Dieu. Personne. Même l'ennemi. Maintenant, il peut venir pour essayer de vous détourner de la relation que vous avez avec Dieu. Mais il ne pourra pas vous la voler. Si vous êtes ferme dans ce que vous vivez avec le Seigneur, il ne pourra pas vous voler votre relation avec Dieu. L'adultère. Malheureusement, je ne sais pas en tout cas pour vous, mais de plus en plus dans nos églises, on entend parler de divorce ou de séparation. Où est l'amour de Dieu dans nos vies pour vivre ça? Quelle souffrance les enfants vivent des divorces? Alors, il y a des exceptions. Il y a parfois pour le bien-être de l'enfant, parce qu'effectivement, où il y a de la violence, etc. Mais sur le principe, en tout cas en tant que chrétien, un jour, vous avez rencontré celle qui allait devenir votre épouse ou votre époux. L'amour que vous aviez pour la personne, pourquoi ça s'est estompé avec le temps? Parce que l'ennemi s'est immiscé dans votre vie. Vous pouvez tourner les choses de toutes les manières que vous voulez. L'amour que vous aviez, vous pouvez le retrouver. À condition de laisser Dieu agir dans votre vie. À condition de réaligner votre vie. Alors là, vous allez dire, bah oui, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi le conjoint. Oui, mais vous pouvez être entouré. Il y a des frères, des sœurs qui peuvent prier pour vous. Vous pouvez avoir des rencontres avec le pasteur. Faites-le. N'attendez pas. Si vous êtes malade, vous allez voir le médecin. N'attendez pas que le médecin vienne vous voir. Si vous avez des problèmes de dermatologie, vous n'allez pas aller voir le rhumatologue. Donc, si vous avez des difficultés à un moment donné, n'oubliez pas l'amour que vous aviez au départ. Et de vous poser la question, mais qu'est-ce qui a détruit ma relation? Jésus a tellement payé cher notre salut. Et c'est vrai qu'on parle de la croix, et je crois que de toute façon, ça restera le point central de la vie chrétienne. Jésus a payé chèrement. Et je pense que si vous fermez les yeux, que vous faites silence et que vous regardez Jésus sur la croix, dans vos vies, il y a des choses que vous allez dire, je n'en veux plus. Il a payé trop cher pour moi. Je vais vraiment vous encourager à ça ce matin. La parole de Dieu est-elle un miroir quand nous la lisons? Et puis 2 Timothée 3,16, que je vais lire. toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ne fais pas les œuvres si tu n'as pas laissé Dieu te toucher et si tu ne laisses pas transformer ta vie. Parce que ça, c'est dans la chronologie, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Il soit accompli dans sa relation avec Dieu, accompli dans ce qu'il vit avec Dieu, qui le transforme. Et après, tu peux aller faire de bonnes œuvres, parce que vraiment, tu marches dans les voies de Dieu. Tu marches selon les plans de Dieu. Si tu ne te laisses pas travailler au niveau de ton caractère, dans quel camp te trouves-tu ? Et je crois pouvoir dire, sans me tromper, que la vie chrétienne se résume en deux choses. Aimer Dieu et son prochain. Alors, on pourrait dire aimer Dieu, aimer son prochain, donc il y en aurait un troisième, mais aimer Dieu et son prochain, puisqu'on parle de l'amour, et pardonner. Pardonner, demander pardon. Pour moi, c'est ce qui vraiment règle la vie chrétienne. Parce que ça nous libère. Ce que je disais tout à l'heure, on va prendre, si vous voulez bien, un temps de silence. Si vous pouvez fermer les yeux et laisser Dieu prendre la place. Imaginez-vous Jésus sur la croix en train de mourir et qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus ne nous condamne pas. Jésus veut que l'ennemi ait de moins en moins de place dans nos vies. Alors Seigneur, pardon. Pardon pour mes certitudes qui ne sont pas les certitudes du royaume de Dieu. Pardon pour mon orgueil. Pardon pour tout ce qui dans ma vie te fait de la peine. Pardon pour toutes les choses avec lesquelles je m'accorde et qui ne sont pas du royaume de Dieu. Je prie, Seigneur, de pardonner, de laver, de purifier par le sang de Jésus. Seigneur, notre désir, c'est d'être de plus en plus conforme à ce que toi tu dis. Ce n'est pas juste de dire être plus conforme, mais c'est d'être plus conforme. Et comme je disais la semaine passée, c'est peut-être l'occasion de renouveler une bonne résolution pendant ces vacances. Alors qu'on a un peu plus de temps, on est plus posé. C'est de dire, Seigneur, dans ces dernières semaines, ce que j'ai entendu, il y a vraiment quelque chose qui, pour lequel je sais que tu me parles. Eh bien, je veux pouvoir travailler à ça. Pardon si j'ai de la difficulté dans ce domaine-là, mais je veux travailler là-dessus. Seigneur, je prie de bénir toutes les personnes ici présentes, de bénir toutes les familles représentées. Je te prie que ton esprit travaille en profondeur afin que nous devenions de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous parce que tu ne nous condamnes pas. Mais tu sais combien et comment l'ennemi peut nous enfermer. Et toi, tu es venu pour nous libérer. Et je te bénis pour cela. Donne-nous d'entrer dans ta liberté au nom de Jésus-Christ. Amen.